Vous êtes toujours à l'écoute de Silab et nous sommes avec deux membres de l'équipe de la Fève, plus précisément Johan, chargé de développement local, ainsi que Margot, ambassadrice de la Fève. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
La Fève, depuis l'année dernière, a quelque peu évolué. En tout cas, vous avez noté quelque chose à la Fève, c'est d'avoir passé une barre d'un nombre d'investissements, le temps de travail passé. Alors, c'est juste un chiffre en soi, mais vous avez surtout mis un nouveau programme à Fève 2020 et au-delà. L'idée, c'est malgré certaines difficultés qu'on pourra voir tout à l'heure, vous voulez vous porter vers l'avant à l'échelle de 3 ans. Pourquoi cette échelle-là ?
Alors, c'est en fait des perspectives un peu d'évolution. On sait que le monde associatif n'est pas forcément en grande forme en ce moment. Néanmoins, on est assez convaincus de notre action et donc on cherche des solutions aussi pour pérenniser en tout cas nos actions auprès des différents publics avec lesquels on intervient. Et donc, à ce sujet-là, en fait, on a essayé de voir avec notre... l'équipe un peu nationale, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour un peu rationaliser aussi nous, notre manière de travailler, peut-être se recentrer sur des choses un peu essentielles et puis essayer d'aller plus loin en y mettant peut-être moins de temps finalement, mais en étant toujours sur du qualitatif, et c'est bien ça qui nous intéresse en tout cas à la Fève.
Parce qu'à la Fève, tout le monde connaît bien l'accompagnement, on va dire, d'un étudiant et d'un jeune. C'est, on va dire, la formule assez simple, mais il y a beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'il y en a des qui sont aujourd'hui plus prioritaires que d'autres justement ?
Alors en effet, l'accompagnement individuel, c'est vraiment le projet central, la chose autour de laquelle on se concentre. Après, ce qui est important aussi chez nous, c'est l'engagement de la jeunesse, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui accompagnent, des bénévoles plutôt, qui étudiants qui accompagnent des jeunes en fragilité scolaire. Donc on a cette double entrée, à la fois lutte contre le décrochage scolaire et puis aussi engagement de la jeunesse. Et dès qu'on parle d'engagement de la jeunesse, ça touche finalement plein d'autres problématiques qui peuvent être le logement, l'application des jeunes sur un territoire... les cursus universitaires, comment est-ce qu'on peut aussi des fois changer un peu du simple savoir théorique et puis se lier un peu plus sur l'expérience, le terrain, pour apprendre des choses qui vont aussi servir pour le futur travail, pour une future poursuite d'études. Et c'est aussi ça qui nous intéresse à la FEF, c'est de proposer des terrains d'engagement variés et surtout sur lesquels les étudiants peuvent s'épanouir et apprendre de nouvelles choses.
Est-ce que l'engagement de cette jeunesse, la mobilisation de ces bénévoles est plus difficile qu'avant selon vous ?
Non, alors on a l'impression que ça peut être plus difficile qu'avant. Néanmoins, on est de plus en plus nombreux à s'investir en tant que bénévole chaque année dans les associations en général et puis aussi particulièrement à la FEV. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, c'est sûr que c'est quand même, ça représente un certain temps de travail. Il faut aller à la rencontre des étudiants, en fait. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est que des fois, on a l'impression que ça ne peut pas le faire. Mais si finalement, on prend le temps d'aller les rencontrer, ils sont très intéressés par les projets de solidarité en général.
Ouais. Margot, tu as été bénévole à la Fève et aujourd'hui tu en es l'ambassadrice parce qu'on t'a sollicité pour ça. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de porter ces valeurs-là justement et d'aller à la rencontre des publics qui pouvaient se mobiliser ?
J'avais envie d'être là pour les nouveaux volontaires parce qu'arriver à la Fève en tant que volontaire, c'est pas forcément évident. Arriver devant un amphi et devoir parler à plein d'étudiants pour expliquer notre projet, nos valeurs, c'est... Au début, c'est très difficile et puis c'est aussi de là pour rassurer les volos, les aider sur la communication, aller vers et autres aussi, donner les petites billes qui peuvent aider sur les accompagnements, sur le quotidien en fait.
Quand Johan parlait tout à l'heure des compétences qu'on peut acquérir grâce à son engagement, justement c'est celle-là que toi tu transmets à ton tour aujourd'hui.
Ouais, voilà, il y a plusieurs compétences, et c'est vrai que celle-là est quelque chose que j'ai beaucoup touché cette année-là où j'ai fait mon volontariat et aujourd'hui encore dans mon métier ça m'a beaucoup aidé à avancer sur ce point-là.
Si on parle un petit peu des autres projets, on va dire plus vraiment périphériques, puisqu'ils sont devenus vraiment très importants, on peut parler notamment des CAPS, ces grosses colocations solidaires. C'est un projet relativement récent, mais qui fonctionne bien et dans lesquels les gens s'investissent plutôt bien. D'abord un bilan peut-être et les perspectives, Johan ?
Alors, sur le projet CAPS, ça existe maintenant depuis quelques années à Rennes. Aujourd'hui, on est à 10 colocations et cette année, 33 colocataires. Ça existe donc sur Morpa, Bréquigny et puis Villejean. C'est un projet sur lequel on a beaucoup de demandes en fait de la part des étudiants parce qu'on est aussi face à une problématique qui est réelle, qui est le logement chez les étudiants qui sont des fois face à une certaine précarité. Et puis dans une ville comme Rennes où il y a de plus en plus de monde, le marché aussi se tend et donc forcément il y a des demandes à ce sujet-là. Après pour nous ce qui est intéressant c'est aussi de lier à la fois répondre à la problématique du logement et puis aussi de dire que dans les quartiers, des jeunes peuvent s'investir. On crée de la mixité par le simple fait que des étudiants habitent dans des quartiers prioritaires. Et puis surtout, ils prennent du temps pour leurs voisins, pour faire des animations, pour aller à leur rencontre, pour créer du lien social. Et je trouve que dans la démarche, ça permet aussi de déconstruire à la fois pour les étudiants des fois des stéréotypes qu'ils peuvent avoir envers les quartiers prioritaires, et puis aussi à la fois pour les habitants, se dire en fait les étudiants qu'on fait que croiser à Rennes, avec lesquels on n'a jamais eu le temps de discuter, et ben là, on prend le temps autour d'un café, autour d'un repas, de prendre une heure, deux heures ensemble, et puis pourquoi pas monter des projets de plus grande envergure et montrer que c'est possible aussi de faire des choses ensemble en créant de la mixité. Et je pense que c'est ça l'intérêt numéro un du projet CAP, c'est toutes les étapes de déconstruction et puis de reconstruction ensemble qui permettent après de se projeter et puis d'enlever un peu ses préjugés. En tout cas de sortir de sa zone de confort d'étudiant et ne pas être toujours qu'entre étudiants ou qu'entre groupes de pairs.
Donc si au départ ils viennent un peu à cause de la pression démographique qui fait que le logement est difficile à trouver, finalement ils sont assez rapidement prêts à échanger de leur temps pour justement obtenir ce logement-là. Ça fonctionne bien? Vous avez des retours d'expérience particuliers de gens qui vous ont dit oh, « bah ouais, c'était vraiment super ces CAPS-là »
Alors oui, on en a déjà. Il y a un signe qui est assez important chez nous, c'est qu'on a beaucoup de reconductions en fait sur ce projet-là, donc beaucoup d'étudiants qui restent dans les logements. Et puis là, on arrive, par exemple, cette année, on a des capseurs d'autres villes qui arrivent à Rennes et donc qui restent sur le projet CAPS. Donc on commence à avoir comme ça une espèce de turnover d'étudiants qui ont fait des CAPS dans différentes villes. Donc ça, c'est plutôt enrichissant pour nous. Et puis c'est un peu chez nous des bénévoles un peu plus parce que c'est quand même un vrai investissement et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est voilà, en général au moins 5 heures de leur temps chaque semaine. Donc ils ont à la fois l'accompagnement individuel et puis à la fois tous les temps de préparation avec la FEV, des temps de formation et puis aussi des temps d'animation. Donc même s'il y a l'entrée de logement, voilà, qui les intéresse et qui répond à une vraie problématique, c'est quand même un vrai investissement. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier et les remercier pour ça.
Et justement, ce que vous leur demandez en termes d'obligation, on va dire, ça consiste en quoi concrètement et comment vous les accompagnez, ces capseurs?
Alors en fait, on les accompagne à la fois sur l'accompagnement individuel, au même titre que les bénévoles de la FEV. Donc ils ont des formations un peu sur la pédagogie, sur le lien avec l'école, la famille, quel est leur rôle dans l'accompagnement individuel. Et puis en fait, on essaie de lier ça avec le projet CAP, parce que quand on fait des accompagnements qui se déroulent au domicile, on est aussi en lien avec les familles. Et donc les capseurs accompagnent des jeunes qui sont finalement aussi leurs voisins. Donc c'est une porte d'entrée aussi pour rencontrer les familles et puis ensuite créer une synergie globale. Et puis nous, sur le côté plus méthodo de projet, etc., donc ils ont des formations sur, par exemple, comment est-ce qu'on va à la rencontre de ses habitants, comment est-ce qu'on construit un projet, comment est-ce qu'on construit un budget. Et puis tout au long de l'année, il y a donc un volontaire en service civique qui suit une CAPS et qui est un peu, alors pas le coordinateur, mais en tout cas qui est là pour leur donner un petit coup de boost. C'est un peu leur boîte à outils de l'année. Et puis le lien aussi entre la FEV et puis le territoire. Et puis nous, on est là pour leur apporter notre réseau, des associations avec lesquelles on a parfois l'habitude de travailler et avec lesquelles on sait que ça peut marcher. Voilà.
À la FEV, le grand cheval de bataille, c'est bien entendu la lutte contre les inégalités. Quand on a dit ça, on a tout dit et puis on n'a rien dit en même temps. Mais est-ce que toi, Margot, quand tu es sur ce terrain-là, sur ce travail-là, tu t'es vraiment rendu compte que cette valeur inscrite dans l'ADN de la FEV était en fait très importante à défendre parce qu'il y a encore beaucoup de travail en fait à faire?
Oui, elle est très importante à défendre parce que on se rend compte tous les jours que en fait il y a beaucoup de travail et que beaucoup de préjugés à casser sur ces préjugés. Et c'est ça aussi qui fait que il y a une dynamique à la FEV et que c'est toujours en continuité. C'est que malgré la montagne de préjugés, d'inégalités, on la monte et on se serre les coudes pour toujours avancer tous ensemble.
À Rennes, on pourrait avoir l'impression qu'il y a moins de fractures, on va dire, moins de difficultés sociales. Et puis finalement, quand on travaille justement dans les quartiers, on se rend compte qu'il est plutôt dissimulé. Enfin là, c'est pas vraiment une question, c'est un peu fermé comme question. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, il est dissimulé déjà, oui, en effet, par l'implantation géographique. En général, il y a quand même une zone qui est fréquentée par les étudiants, etc., le centre-ville. Et puis tous les quartiers sont finalement en périphérie. Néanmoins, la ville de Rennes est quand même bien desservie, il y a du lien, etc. Donc même s'ils sont en périphérie, moi je trouve que c'est une ville qui va quand même plutôt bien. Mmh. Et plutôt que des fois toujours dire ça va mal, je suis plutôt sur une dynamique où on peut se dire ça va et ça va mieux et ça va aller encore mieux. Et moi je trouve que c'est ça qui est important à la FEV, c'est que même si on traite de problématiques qui sont réelles, de sujets qui sont parfois difficiles, on le fait toujours avec le sourire et dans une dynamique d'ouverture et puis de positive, une dynamique positive, et je crois que c'est ça qui m'intéresse aussi dans cette structure en fait.
La pensée positive de la FEV, tu partages ça aussi, Margot?
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'on peut parler peut-être de la situation spécifique du quartier dans lequel Syllab est également, et ce campus Villejean, avec le quartier Villejean à côté, cette dalle Kennedy? On a déjà eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois à cette antenne avec beaucoup, et beaucoup d'acteurs, de très nombreux acteurs. Il y a une césure, une sorte de fracture entre les deux, alors que finalement c'est des populations qui se ressemblent sur beaucoup de points. Comment est-ce que vous travaillez pour essayer de casser cette barrière entre voilà, Kennedy et Villejean?
Ouais, alors c'est vrai que c'est une fracture qui existe, et puis déjà c'est un quartier qui a quand même une particularité singulière, c'est qu'il y a une fac de plus de 20 000 étudiants sur un quartier de 12 000 habitants, donc déjà ça veut dire que tous les jours il y a un flux énorme de passages, etc. Puis des gens qui finalement n'ont aucun espace pour se rencontrer, ils vivent au même endroit mais ils ne fréquentent pas les mêmes personnes, les mêmes lieux, donc c'est voilà, quelque chose qui est assez important en tout cas à travailler, notamment chez les jeunes qu'on accompagne qui n'ont en fait souvent jamais mis les pieds à l'université. Pour eux, ça représente une vraie barrière. Voilà. Et puis souvent, ils fantasment un peu l'université, ou en tout cas, ils en pensent des choses qui sont finalement fausses. Donc, pour travailler là-dessus, déjà, moi, je trouve que le point principal, c'est que des étudiants de Rennes 2 vont s'investir sur le quartier de Villejean en allant dans les familles, voir des enfants pour les accompagner dans leur scolarité. Ça, c'est un point super important. Et après, sur tout ce qui est orientation, nous, on essaie de travailler avec le collège de Rosa Parks notamment, sur des visites de la fac. Alors pas forcément pour dire aux jeunes allez faire des études supérieures plus tard, mais juste pour leur montrer que derrière ces grands murs, voilà ce qui s'y passe, voilà ce que les étudiants font, c'est une continuité en fait de l'école, et donc on fait des rencontres comme ça avec des étudiants qui vont présenter leurs différents parcours, savoir comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce que ça veut dire la vie d'étudiant, qu'est-ce qui change entre être un jeune au collège et un étudiant à Rennes 2, un peu aussi pour que chacun apprenne de l'autre et puis qu'ils puissent déconstruire aussi cette image qu'ils aient de l'université. Mais je crois que cette dynamique-là, elle est traitée par pas mal d'acteurs, en tout cas sur le quartier. Et j'ai l'impression que voilà, enfin, il me semble notamment que c'est dans le programme politique de Monsieur David, donc voilà, je crois qu'il y a des choses qui vont bouger à ce sujet-là.
Il faut rappeler également que la saison culturelle de Rennes 2 est ouverte à tous, bien entendu, même les bibliothèques universitaires sont ouvertes à tout le monde. Dans le sens inverse également, tout de même, les étudiants ont aussi peut-être des préjugés sur cette dalle Kennedy qu'il faut briser?
Ouais, alors ils en ont, malgré tout, j'ai l'impression que c'est tellement fréquenté et que tout le monde à la fac a un ami qui habite voilà, à Kennedy, en tout cas à proximité, que voilà, ça se déconstruit en tout cas. Mais à l'arrivée, c'est sûr qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu anxiogène. Nous, chaque année, on a des étudiants qui viennent nous dire, voilà, par contre, à Villejean, je sais pas trop, au Blône, je sais pas trop, voilà, c'est un peu aussi, voilà, ce qu'on entend, et donc forcément on connaît aussi ce qu'on nous a donné voilà, à manger, et donc des fois on se fait un peu de fausses idées, mais c'est des choses qui se déconstruisent finalement assez facilement si on en a l'envie, en tout cas, et je crois que c'est ça qui compte.
On n'attribuera pas de mauvais points à ceux qui éventuellement diffusent et contribuent à diffuser ces idées et ces préjugés sur ces différents quartiers, Kennedy ou Leblon. Est-ce que ça t'arrive, Margot, d'avoir par exemple cassé ces préjugés-là quand t'es avec des habitants du centre-ville, et si oui, quel argument pourrait marcher en tout cas?
Quel argument? Le premier, c'est que j'habite à Kennedy et que quand on me dit t'as pas peur de passer sur la dalle ou truc comme ça, j'y ai travaillé, enfin j'y étais en contact avec eux, enfin, et c'est des personnes tout à fait normales, et en fait si on apprend à les connaître, ils sont comme nous, comme les gens du centre-ville, et c'est juste qu'ils ont ils sont implantés, ils ont leur immeuble, enfin c'est comme toi tu pourrais vivre en fait en centre-ville, c'est tout à fait pareil.
Des personnes normales, et ça c'est mon avis personnel, je dirais même en mieux, parce que je trouve que ce sont des personnes exceptionnelles, il y a beaucoup plus de diversité finalement que dans le centre-ville. Mais là je déborde de mon rôle, je vais plutôt repasser aux questions et notamment aux nouveaux partenariats que vous voulez défendre, parce qu'à la FEV c'est aussi important ça de continuer toujours à mobiliser de nouveaux acteurs. Quel type de partenariats aujourd'hui sont susceptibles de vous intéresser?
Alors nous c'est vrai qu'on met toujours au centre de notre activité l'accompagnement individuel, mais on est aussi là pour proposer des terrains voilà, divers et variés pour nos volontaires en service civique, éventuellement d'autres lieux d'engagement voilà, bénévoles, etc. Donc au niveau des perspectives partenariales, on est aujourd'hui à la radio Syllab, et c'est déjà peut-être un premier exemple de ce qu'on souhaite porter. En tout cas, il y a déjà une pluralité d'acteurs qui existent sur le quartier et sur la ville de Rennes, avec lesquels on travaille beaucoup. L'idée, c'est peut-être des fois de passer sur des choses un peu plus poussées, en tout cas plus concrètes, et de construire ça en projet vraiment effectif avec nos volontaires et puis nos bénévoles.
Voilà, et puis ces éventuels mécènes ont été séduits par tout ce qu'on vient de dire là, n'hésitez pas bien entendu. En ce qui concerne les bénévoles, justement, bah, les rassurer, leur dire, là ils vont, vous ont entendu, donc ils voient bien la démarche de convivialité, l'accueil qui leur sera réservé forcément très agréable et très accompagné. Comment on fait concrètement là, ceux qui viennent mieux vous entendre, ils veulent vous rejoindre, ils font comment?
Alors, pour nous rejoindre, c'est assez simple. En fait, on a un site internet qui s'appelle rejoins.afev.org. Dessus, il y a une petite rubrique bénévolat, inscrivez-vous. Et donc, il y a un petit formulaire à remplir, nom, prénom, numéro de téléphone. Sélectionnez la ville de Rennes et puis on va vous recontacter si vous remplissez ce petit formulaire pour vous inviter à une réunion d'information qui se déroule dans nos locaux qui sont situés près de la dalle Kennedy au 8 rue de Quercy.
Et l'engagement commencera à ce moment-là. Merci beaucoup Johan Margot de la FEV d'être venu chez nous. Et puis à très bientôt pour de nouveaux partenariats avec Silab.
Merci à toi Romain.